pour cette deuxième partie. Donc, je vais essayer de me concentrer sur trois points. Premièrement, une petite discussion de ce qu'on appelle en renormalisation la formule des forêts de Zimmermann, qui est reliée à un développement mathématique récent, celui des algèbres de Kohn-Kreimer. Et puis, ensuite, je vais vous parler un petit peu de théorie constructive, éventuellement. Tout dépendra aussi de... Si vous êtes intéressé, j'en dirai un petit peu plus, si vous ne l'avez pas. Mais... Et puis, je voudrais terminer un peu sur un sujet qui est celui de mes recherches actuelles et vraiment, je trouve très intéressant, qui est vraiment la partie combinatoire de la théorie des champs, qui est, à mon avis, se révèle de plus en plus intéressante. Bon, donc une fois qu'on a compris le principe de base de la renormalisation, on va soustraire à la théorie, parce qu'il y a des graphes qui sont hauts en échelle par rapport à la plate externe, on va soustraire la partie locale, ça c'est un peu l'idée physique. Comment on organise ça de façon cohérente? Comment on explique qu'il s'agit de la même théorie mais vue dans des variables différentes? Alors ça, la solution de ça a pris pas mal de temps, parce que dans une amplitude de Feynman, même lorsque le degré... Le comptage de puissance 4 moins Ng est négatif, par exemple supposé N égale 6, vous regardez un graphe à 6 pattes externes, vous pouvez avoir dedans des sous-graphes, y compris de nombreux sous-graphes, qui ont peu de pattes externes, par exemple qui sont divergents. Donc même dans un graphe, comme on dit, superficiellement convergent, il peut y avoir beaucoup de sous-graphes divergents, et dans ce cas-là, l'amplitude est bel et bien divergente, et donc la renormalisation doit aller atteindre toutes ces parties divergentes cachées dans toute la structure en sous-graphe du graphe. Ça a pris pas mal de temps aux physiciens de comprendre comment faire. Le premier qui a compris que, ma foi, il n'y avait pas d'autre solution que de faire une sorte de récurrence sur la taille des graphes, c'était Bogoliubov. Donc il a correctement énoncé que, vraisemblablement, la solution était inductive en partant des plus petits sous-graphes vers les plus gros. Un physicien à Zurich, Klaus Hepp, a pu rendre son idée rigoureuse, mais en la combinant tout de même avec une certaine forme d'analyse en échelle, qu'on appelle les secteurs de Hepp. Et puis enfin, en 1973, un Allemand, Zimmermann, a résolu la récurrence de Bogoliubov. Pas la même chose de formuler une récurrence et d'en trouver la solution explicite. Alors Zimmermann a trouvé la solution explicite en écrivant que l'amplitude renormalisée d'un graphe compliqué quelconque était la somme sur les forêts, qu'on appelle forêt de Zimmermann, je vais vous dire ce que c'est, d'une expression dans laquelle vous reconnaissez les éléments constitutifs de l'amplitude de départ, mais vous avez ici des soustractions sur les sous-graphes de la forêt, 1 moins TS. Alors qu'est-ce que c'est que cette somme sur F? C'est la somme sur les forêts de Zimmermann, qui sont les ensembles de sous-graphes divergents, c'est-à-dire avec cette condition, de G, qui n'ont pas d'intersection non triviale, c'est-à-dire quand vous prenez des sous-graphes dans une telle forêt, soit ils sont complètement disjoints, ligne et vertex, ou bien complètement inclus l'un dans l'autre. Bon, je ne précise pas trop les détails, si vous avez des questions, je vous dirai plus exactement ce que ça veut dire, mais au moins là, ça vous donne une idée. Alors, TOS, c'est un opérateur qui justement remplace le sous-graphe que j'avais tout à l'heure par... un point unique où vous attachez toutes ces pattes externes et puis un nombre qui correspond. Si vous voulez, vous détachez toutes les pattes externes et vous les rattachez à un même point commun. Et c'est ça que fait l'opération de TOS. Alors, TOS est une partie locale. Vous voyez, pour le sous-graphe, elle rend le sous-graphe S, vu de l'extérieur, exactement un point, alors qu'il est seulement semblable à un point. Alors, 1, qui est la vraie amplitude, est proche de TOS. Donc, ce 1 moins TOS est petit. Et c'est le facteur que vous gagnez là, qui rend cette intégrale convergente. Donc voilà la formule renormalisée générale d'une amplitude. Alors, est-ce que cette formule est intéressante? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle est belle? Enfin, il y a beaucoup de choses, de questions différentes qu'on peut se poser. Et il y a beaucoup de réponses un peu différentes là-dessus. Alors, je dirais que ce développement correspondrait dans l'esprit, dans le langage de Wilson, à réexprimer toute la théorie des champs en termes d'un seul couplage correspondant à la dernière échelle avec laquelle vous observez réellement la théorie. Donc une échelle quand même unique, par exemple l'échelle du mètre, je ne sais pas, ou l'échelle du décimètre. Vous essayez de décrire toute la théorie en termes d'une constante de couplage qui physiquement correspondra à la valeur effective de votre couplage à l'échelle finale d'observation, ce qu'on appelle la constante renormalisée. Ça, c'est un premier point qu'on pourrait légèrement critiquer. Je vais vous montrer pourquoi. Le deuxième point, c'est que ces forêts de Zimmermann, qui sont des forêts abstraites au sens de l'inclusion des graphes l'un dans l'autre. Si vous dessinez le graphe d'inclusion, il va être une forêt. En fait. Mais autrement, ce n'est pas des forêts de lignes, hein, du graphe, c'est des forêts abstraites. Ces forêts, pour en quelque sorte en faire la liste, il existe un outil très joli pour faire la liste de ces forêts qu'on appelle l'algèbre de Hoff, voilà, Kohn-Kreimer. C'est une algèbre qu'on peut attacher à une théorie des champs de façon à, en quelque sorte, faire automatiquement la liste de ces forêts. Donc ça, c'est joli parce que les mathématiciens aiment bien les algèbres de Hoff et donc ils ont été absolument séduits par ce langage. Et un petit peu à ma surprise d'ailleurs, ça a été peut-être la façon dont la renormalisation a enfin pénétré un petit peu dans la grande porte des mathématiques, c'est à cause du prononcer ce mot-là, hop. Donc finalement, je m'en réjouis, et je m'en réjouis d'autant plus que ça a permis, par exemple, je vous parle d'une retombée concrète, la création en mathématiques d'un GDR qui s'appelle le GDR renormalisation. Je pense que ça, c'est très positif que les mathématiciens se soient mis. Parce que le gros avantage des mathématiciens lorsqu'ils se mettent à un sujet, c'est qu'après, c'est pour 2 ou 3 000 ans. Donc, que ce soit entré par les algèbres de Hoff, ça a été un peu ma surprise, mais que ce soit entré pour 3 000 ans, ça, c'est vraiment une chose très positive. Alors voilà, donc la renormalisation est désormais un sujet en mathématiques. Et enfin, et aussi, je dirais, peut-être aussi spécifiquement à Bordeaux, on pourrait signaler, puisque vous avez, je m'en souviens, une très riche école en théorie des nombres, eh bien, du coup, ces amplitudes renormalisées peuvent aussi être intéressantes du point de vue de leur propriété de théorie des nombres. Vous savez, vous avez cette notion en théorie des nombres des périodes, par exemple, des fonctions de zeta, et des nombres qui sont des intégrales de fractions rationnelles entre des bornes simples, etc. Donc, ces nombres-là sont des nombres plus jolis que d'autres, même s'ils peuvent être transcendants. Et on s'est posé la question, est-ce que ces amplitudes renormalisées sont des fonctions de zeta dans un certain sens, et multi-zeta, etc. Et elles ne le sont pas toujours, et c'est plus riche que ça. Et donc, pour l'instant, on continue de faire pas mal de recherches sur quels sont, au sens de la théorie du nombre, les nombres qui ressortent. Alors, je voudrais quand même, ici, mettre un petit bémol à l'enthousiasme des mathématiciens. Comme un peu nouveau converti, ils sont très enthousiastes. Je les entends parfois dire que ces valeurs d'amplitude renormalisées sont physiquement observables. Je mettrai un petit bémol, parce que je vous rappelle que pour la théorie des champs, quand on fait une expérience, on n'observe jamais une amplitude de Feynman donnée, même renormalisée. On observe toujours une somme d'amplitudes. Donc on n'observe pas une à une les amplitudes, on les observe toujours par immense paquet. Et donc je ne crois pas, même si on pouvait avoir plus de décimales dans une expérience, qu'on peut vraiment dire que telle ou telle expérience va permettre de calculer ou de comparer à l'expérience physique une amplitude renormalisée de l'autre. Et là, j'embrayerai un peu, si vous voulez, sur la théorie constructive. En principe, c'est la somme des amplitudes de Gratel et de Feynman, donc la théorie constructive, qui, elle, fournit des nombres que vous devriez pouvoir comparer à l'expérience, pas les amplitudes mêmes. Bien. Alors, je voudrais aussi, quand même, ajouter quelques mots de prudence, parce que je travaillais sur la formule de Zimmermann pas mal dans ma jeunesse, et finalement, j'ai un peu arrêté de travailler dessus pour les raisons suivantes. C'est que la formule de Zimmermann a plusieurs défauts du point de vue, par exemple, physique. Et dans la formule de Zimmermann, vous soustrayez des sous-graphes indépendamment des échelles concernées. C'est-à-dire que quand vous voyez ici, dans cette formule, je ne vois plus les objets dont je vous ai parlé tout à l'heure, les CI, qui sont décomposés en échelles. Or, physiquement, seuls les sous-graphes qui sont hauts sont tels que ce 1-2S est petit. C'est-à-dire, pour les sous-graphes hauts, le 1 est proche du 2S. Mais pour les sous-graphes qui ne sont pas hauts, vous pouvez aussi bien décomposer ce produit en 1-2S, parce que les deux termes ne se ressemblent pas du tout. Donc, ça ne sert un peu à rien de les combiner. Donc, cette formule est un peu trompeuse du point de vue de l'organisation en termes petits ou termes grands dans cette histoire. Voilà. Et en particulier, il y a un prix à payer à utiliser ces formules, qu'on appelle les renormalons. Je ne vais pas quand même vous en parler parce que ça m'entraînerait trop loin, mais je vous dirais que les graphes les amplitudes renormalisées peuvent être certes finies, mais peuvent être des nombres très très grands. En particulier, un graphe à n vertex peut créer une amplitude renormalisée par cette formule qui est de taille factorielle n. Et ce factoriel n est entièrement dû au fait que comme on fait toutes ces soustractions sans prendre en compte les échelles concernées, eh bien, de temps en temps, ces objets-là ne se ressemblent pas du tout Et donc, au lieu de faire une soustraction, ils font plutôt une addition. Et donc, ils font des effets qui sont grands. Pas infinis, mais grands. Et factoriel n, vous ne pouvez pas le sommer sur n. Donc, ils vous réintroduisent un problème de rayon de convergence. Donc, pour toutes ces raisons, le manque explicite d'organisation en échelle de la formule de Fourier et le fait que les amplitudes renormalisées, bien que finies, soient très grandes, physiquement, ça vous indique que peut-être ce n'est pas la meilleure façon de voir. Et donc, je suis moi plutôt un adepte, un avocat de la façon de voir de Wilson, dans lequel on va faire quelque chose d'un peu différent. Bon, ça, je passe tout de suite parce que c'était l'histoire des renormalisés. Je voulais plutôt vous dire qu'on devrait plutôt tenir compte des échelles et à ce moment-là ne soustraire que la forêt des graphes O, parce que c'est celle-là qui a besoin d'être soustraite. Et mathématiquement, ça correspond à dire qu'on n'exprime alors pas le développement de la théorie des champs comme une série entière dans la constante de renormalisée, mais comme une multisérie entière dans une famille de constantes de couplage, une par échelle, avec un flot entre ces échelles qui relie ces constantes. Et pour moi, ça, c'est peut-être une meilleure façon. C'est une meilleure façon, si vous vouliez réellement organiser le calcul, y compris sur un ordinateur, de la quantité prédite par la théorie des champs. Voilà. Donc, je vous dirais, si vous voulez vraiment comprendre la théorie des champs sur des échelles différentes et l'ensemble de la somme des amplitudes du graphe renormalisé, ce n'est pas une très bonne façon de l'exprimer par la théorie par la formule de Timmermans. Pas une façon qui serait très, très bonne du point de vue calculatoire. Vous seriez en train d'ajouter et d'enlever des tas d'immenses objets en factoriel n, alors qu'en réalité, il y a des objets beaucoup plus petits qui font la somme de ces objets-là. Voilà, pour essayer de vous l'expliquer. Si vous utilisez cette formulation en termes de multisérie dans les couplages effectifs, premièrement, il n'y a pas besoin de Cohn-Kramer algébra. Il n'y a pas besoin de Zimmermann-Forest, parce qu'il n'y a qu'une seule forêt, pas plusieurs, une seule forêt qui est haute. Donc vous n'avez besoin que de faire une seule soustraction de forêt. Et il n'y a pas de renormalon non plus. Les amplitudes effectives ainsi soustraites n'ont jamais de factoriel n, elles sont jamais très grandes. Donc en pratique pour le calcul, on voit bien que ça, ce serait mieux. Bon, voilà ma remarque sur, peut-être un peu décevante, sur les formules de Zimmermann. Elles sont très belles mathématiquement, mais attention au calcul. C'est un petit peu comme quand vous faites du développement en mécanique classique. C'est très beau, mais attention au petit dénominateur, et ainsi de suite. Vous voyez, il y a aussi une façon pratique d'organiser le calcul qui peut être très riche physiquement, qui vous indique que peut-être si vous faites comme ça, vous ne suivez pas la meilleure organisation possible de la théorie. Donc, quelquefois, la beauté mathématique n'est pas toujours liée à l'efficacité des calculs. C'est tant mieux quand c'est le cas, mais pas forcément toujours vrai. Donc voilà, la renormalisation, certainement, oui, c'est une théorie fascinante. Les amplitudes renormalisées, certainement, elles sont belles, intéressantes. Mais ce qui, pour moi, est le cœur physique de la théorie, c'est l'interprétation wilsonienne, c'est-à-dire la renormalisation doit être combinée à une analyse en échelle. C'est mon message sur la théorie des champs et sur la renormalisation. Bon, alors là, j'arrête sur... Je ne vous parlerai pas de la question de la liberté asymptotique ou pas, parce que ce serait trop long. Et donc, les deux autres points que je vais peut-être aborder brièvement, chacun peut-être... en 10 minutes ou un quart d'heure, je vais vous parler un tout petit peu de théorie constructive, pour vous donner peut-être une ouverture dessus, et puis un peu de théorie, ce que j'appelle combinatoire. Mais d'abord, peut-être qu'il y a des questions sur cette formule de Zimmermann, ce que je viens d'en dire.
Mais il reste quand même une forme de défaut dans la version...
Non, alors, lorsqu'on exprime la condition, lorsqu'on a une attribution d'échelle, que j'appelle mu, sur les lignes d'un graphe. C'est-à-dire mu, c'est une collection d'échelles, une par ligne du graphe. Et IL, c'est un entier. Donc ça appartient à n à la puissance, le nombre des lignes du graphe. Donc quand vous avez choisi une échelle pour chaque ligne, il n'existe qu'une seule forêt de graphe O. Et l'amplitude renormalisée, que j'appelle renormalisée effective, c'est une amplitude qui est exactement comme ça, mais avec une petite nuance. C'est une amplitude comme ça, où ici, vous avez une somme sur mu, et ici, il y a un seul f, qui est le fu, qu'il faut soustraire. Et évidemment, ce f mu change avec mu, et donc en fin de compte, chaque bout de l'amplitude finit par avoir besoin de forêt. Mais il n'y a jamais une somme de plusieurs forêts. Et il n'y a jamais de un moins tôt qui ne se ressemble pas. Dans chaque mu, cet objet-là est bel et bien petit. Alors ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. Du point de vue, en tout cas, à la fois de physique et du calcul. Donc oui, il y a une formule de forêt, mais... Alors, si tu prends cette formule-là et que tu la forces à se développer en mu, on ne comprend même pas très très bien pourquoi la formule est finie. Finalement, elle est finie, oui, mais la preuve n'est pas facile. Alors que la preuve que les amplitudes que j'appelle effectives sont finies est presque triviale. Deuxièmement, quel est le prix à payer ? Est-ce que les amplitudes dont je parle sont les mêmes ? Non, ce ne sont pas les mêmes. Et la raison pour laquelle ce ne sont pas les mêmes, c'est que la série n'est pas exprimée de la même façon ni dans les mêmes constantes. Dans le cas d'une série renormalisée, elle est exprimée en termes de la constante renormalisée unique. Et dans le cas d'une série effective, il y a une famille de constantes qui elle-même satisfait une équation de flot qui la rend consistante. Ce qui fait qu'en fin de compte, sa solution, elle est bien, dépend d'une condition au bord qui peut être soit la constante Baire, soit la constante renormalisée. Donc c'est une autre façon d'organiser la série et c'est pas étonnant que donc les morceaux ne sont pas les mêmes. Est-ce que ça répond à ta question ?
Oui, mais je voulais juste entendre qui est... Enfin, je trouve cette formule avec une seule forêt plus élégante que la formule avec une seule forêt.
Moi aussi. Hein. Mais on balaye quand même toutes les forêts parce qu'on balaye tous les mus. Mais pour chaque mu, on ne met qu'une forêt. Et donc, combiner cette formule avec une analyse en échelle, c'est ça qui vraiment, à mon avis, la rend lumineuse. Mais bon. Alors, ceci étant dit, j'en viens maintenant, je ne parle pas de théorie asymptotiquement libre ou pas, bien que ça ait une grande importance physique sur l'histoire de la théorie des champs, et que si la théorie n'est pas asymptotiquement libre, on ne la comprend pas très bien dans l'ultraviolet en général. Alors, je vais passer tout de suite à la question de qu'est-ce que c'est que la théorie constructive, et je vais essayer de vous donner une image légèrement caricaturale, je reconnais, mais quand même, j'espère, simplificatrice et pas trop fausse, de ce que je veux dire quelquefois quand j'utilise cette formule un petit peu provocatrice. La théorie constructive consiste à remplacer les graphes de Feynman et à revenir aux arbres classiques, ce qui semble un peu en arrière. Pourquoi ça va marcher ? Alors, rappelons-nous, même lorsque vos amplitudes sont renormalisées et finies, même si elles ne sont pas très grandes, même s'il n'y a pas de renormalon, même si vous avez fait des théories effectives, tout ce que vous voulez, donc les amplitudes ne sont pas très grandes, eh bien, les graphes, eux, sont très nombreux. Alors, quand vous essayez de calculer le nombre d'appariements de n objets comme ça, ben vous avez, si vous avez n objets, vous avez 4 n champs, et alors le nombre d'appariements, c'est une sorte de double factoriel. Donc ça se comporte comme une constante puissance n fois le factoriel n au carré. Si vous vous souvenez bien, dans les fonctionnelles génératrices de ces graphes, il y avait tout de même quand même un facteur de symétrie 1 sur factoriel n. Et quand vous divisez factoriel n au carré par factoriel n, il reste factoriel n. Et le rayon de convergence d'une série de type factoriel n, c'est 0. Donc vous ne pouvez pas sommer. Ça, c'est ce que j'appelle la prolifération de l'espèce, au sens des espèces, des graphes de Feynman avec, par exemple, degré 4. Alors c'est une aussi, on peut dire quelquefois que en tant qu'espèce combinatoire, elle n'est pas exponentiellement bornée. Bon. Seules les espèces combinatoires exponentiellement bornées donnent lieu à des fonctionnelles génératrices qui sont des fonctions pour des valeurs petites de la constante. Alors quand je dis solution replace Feynman-Grass par actrice, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bon. Alors tout d'abord, je fais une petite parenthèse. Ça veut dire qu'il y a une façon de calculer directement la somme de Borel de la série initiale et de l'exprimer par une série en arbre. Alors qu'est-ce que c'est que la somme de Borel ? Bon, la somme de Borel correspond à le fait que quand vous avez une série divergente, il peut néanmoins y avoir une fonction unique attachée à cette série, à condition qu'elle ait des conditions suffisamment rigides du point de vue de, par exemple, des conditions d'analyticité. Alors par exemple, si vous avez une fonction f qui est analytique dans un domaine qui est un disque tangent du plan complexe dans un domaine de ce type-là, un disque tangent à l'axe imaginaire, vous voyez, avec ce point qui est néanmoins un point singulier, parce que vous n'avez pas d'extension analytique à un voisinage de ce point, mais si dans un disque ouvert comme ça, la fonction est analytique, si dans ce disque ouvert, elle satisfait à des conditions de reste de Taylor uniforme par rapport à une série donnée, somme de n mur d'n, avec reste en factoriel n, par exemple, à l'ordre de n. Donc un reste de Taylor en factoriel n lambda puissance n plus 1. Eh bien, si vous avez ces deux conditions, alors il n'y a qu'une seule fonction f, comme ça, et on l'appelle la somme de Borel. Donc ça vous définit bien une réponse unique possible pour qu'est-ce que c'est que la théorie des champs en question. Et on peut la calculer, mais pas en sommant la série naïvement, en la ressommant avec une méthode qui se base sur ce qu'on appelle la transformée de Borel. Bon, et alors en fait c'est le cas, dans le cas de la théorie ficale dont je viens de vous parler, on peut montrer dans beaucoup de dimensions, dans beaucoup de cas, notamment en dimension 1, 2 ou 3, qu'en dimension 4 c'est plus difficile parce qu'elle n'est pas asymptotiquement libre, mais en dimension 1, 2 ou 3, on peut montrer qu'effectivement les séries de la théorie des champs ficales sont Borel sommables. Et donc le problème c'est, est-ce que je peux trouver une autre espèce combinatoire d'autres poids qui est la rayon de convergence finie et qui me donne la somme de Borel de la première? Eh bien la réponse est oui. Et donc trouver cette réponse prend beaucoup de temps. Néanmoins la réponse est simple. Alors je vais essayer de vous dire qu'il y a une espèce de caricature de la théorie constructive qui est faite d'une équation d'une seule ligne. Alors voilà, supposons que nous avons trouvé des poids positifs intelligents, W de GT, pour toute paire formée d'un graphe connexe G et d'un arbre à l'intérieur de G. Et je suppose que ces poids sont quelque sorte de barycentrique, c'est-à-dire que quand je somme sur tous les arbres possibles qui sont couvrants d'un graphe, je veux trouver la valeur 1. Okay. Supposons, je ne vous ai pas encore dit ce que c'était que ces W, supposons que j'ai une famille de tel graphes, ne serait-ce pas un rêve agréable si les quantités de la théorie des champs, qui d'habitude s'expriment comme des sommes sur les graphes de Feynman, d'amplitude de Feynman, pouvaient être écrites comme ça. Vous voyez, j'insère devant AG le nombre 1. Je ne change donc pas la valeur de la théorie. Donc j'écris ça, somme sur G, somme sur T, WGT, AG. Puis, astucieusement, et cette fois comme je suis devant des quantités finies, légalement, et non pas illégalement comme avant avec l'intégration fonctionnelle, je commute ces deux sommes. Comme ce sont des sommes finies, je devrais avoir le droit. À ce moment-là, je peux écrire que ma quantité est une somme sur des arbres, d'une amplitude associée à l'arbre, et maintenant cette amplitude, c'est la somme sur les graphes qui peuvent compléter l'arbre T, dans l'espèce considérée, de WGTHG. Supposons maintenant, ne serait-il pas possible, faisons un rêve un instant, comme Martin Luther King, serait-il possible que ma foi à la théorie des champs divergée parce que somme des AG ça vaut plus l'infini, mais cette nouvelle théorie converge parce que somme des AT ça vaut quelque chose de fini. Donc ça semble un rêve, et pendant longtemps j'ai essayé de poursuivre ce rêve jusqu'à ce qu'un jour je m'aperçoive qu'il pouvait peut-être devenir une réalité. Enfin, je vais vous raconter comment. Alors, la question serait, ben dans ce cas-là, cette somme-là étant finie, il ne reste plus qu'une seule question éventuellement à se poser. Quelle est sa relation à la théorie de départ? Si je peux prouver ma foi que S non seulement est bien défini parce qu'il est fini, mais qu'en plus c'est la somme de Borel de ça, ben ma foi, je pourrais dire que j'oublie l'ancienne théorie des champs et que j'ai une nouvelle façon de formuler la théorie des champs avec des arbres, beaucoup plus proche finalement de la mécanique classique. Alors c'est ça qu'on voudrait faire en théorie constructive finalement. Alors première difficulté, on s'aperçoit que tout ça n'est pas possible. Et pendant 20 ans, j'ai été coincé par cette difficulté, je ne voyais pas du tout comment faire, parce que je me disais, de toute façon, c'est un rêve qui jamais ne se réalisera, parce que je vois bien que quand je recombine des amplitudes en termes d'un arbre, dans le cas de Φ4, je ne peux pas changer ce qu'on appelle le nombre de vertex, parce qu'un arbre donné, dans un graphe, a toujours le même nombre de vertex que l'arbre, etc. Or, je sais que dans la théorie Φ4, ce qui produit l'effet de somme de Borel, le fait que la série est quand même semi-convergente, en un sens, c'est parce qu'il y a ce moins 1 puissance 7 qui fait que les graphes d'ordre 27 n'ont pas le même signe que les graphes d'ordre 28, et ainsi de suite. Mais les graphes d'ordre 28 étant beaucoup plus nombreux, le AN est beaucoup plus grand. Et donc, je me suis dit, non seulement je ne peux pas combiner des graphes avec le même nombre de vertex parce que je n'exploite en rien les signes moins de la théorie, mais en plus, si je pouvais faire un rêve de ce type, il faudrait absolument que les paquets que je crée contiennent des graphes de tous ordres, y compris un nombre infini des graphes, parce que je vois que comme la théorie a tendance à diverger vers l'infini, là, de plus en plus grande, c'est même pas comme quand je prends une série comme ça, quand je prends la série 1 moins 1,5 plus 1 tiers moins 1 cinquième, etc. Il me suffit de faire des paquets de longueur 2 pour trouver une série convergente. Voilà, ben non, pas du tout. Parce que comme c'est plutôt des paquets du genre moins 1 puissance n factoriel n, quand j'en combine 2, c'est de la taille du plus grand des 2. Et quand j'en combine 4, c'est de la taille du plus grand des 4. Et c'est tout. Et je n'arriverai jamais à faire apparaître cette taille petite, indispensable, pour que ceci puisse être vrai. Donc, pendant très longtemps, j'ai pensé que ce programme était impossible et que tout ceci n'était qu'un rêve, jusqu'au jour où, il m'apparaît que ça pouvait être possible à condition de changer les graphes. Et donc, il existe heureusement des bijections, on en connaît à Bordeaux, entre les graphes et d'autres objets qui permettent de réécrire la chose différemment. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est d'abord, il faut des bons poids, et ensuite, il faut des bons graphes. Et finalement, ça marche. Alors, quels sont les bons poids? Alors, les bons poids que nous utilisons sont ceux-ci. Le W de GT, c'est le nombre de secteurs, c'est-à-dire d'ordre sur les lignes du graphe, tel que l'arbre T soit ce qu'on appelle dominant dans ce secteur. Alors, qu'est-ce qu'un arbre dominant dans un secteur? Eh bien, si vous affectez des numéros aux lignes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à N, vous avez factoriel L, factoriel E de G, façon de faire. Et un problème résolu par Kruskal, si j'ai bien compris, je ne connaissais pas ce papier, mais il m'a été conseillé par Gilles Schaeffer. Donc un problème résolu par Kruskal, qui ensuite a été résolu de la même façon, mais sans le savoir, par Hepp, et ainsi de suite, c'était de se dire, ben, quand je me donne un de ces ordres-là, il y a un arbre qui me rentre dans l'œil. C'est l'arbre formé des lignes avec les plus petits labels possibles. C'est celui aussi qui minimise la somme des labels, et ainsi de suite. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'arbre dominant. Alors vous voyez, le nombre de secteurs ou de permutations qui donnent un arbre dominant peut dépendre de l'arbre, et ce n'est pas une constante. Néanmoins, comme tout arbre est dominant dans un secteur donné, et que dans un secteur donné, il n'y a qu'un seul arbre dominant, si vous sommez sur T, vous trouvez bien 1. Parce que ça, c'est en quelque sorte un pourcentage. Bon, alors je ne vais pas en parler plus longtemps, simplement pour vous donner un tout petit exemple d'un calcul de ce type. Si vous prenez par exemple ce graphe-là, vous voyez, eh bien, il possède 5 arbres. Il y en a un qui est un peu spécial, c'est celui-là, et puis il y en a d'autres qui sont 4 qui sont un peu du même genre, qui sont comme ça. Bon, ben, si vous calculez les W, vous ne trouvez pas que c'est un cinquième. Vous trouvez des poids qui ne sont pas triviaux. Par exemple, celui-ci, si mes souvenirs sont bons, celui-ci vaut 6,24e. Pardon, 5,24. Je pense qu'il y en a un qui vaut 5,24e et un autre qui vaut 4,24e. Et là, vous en avez 4. Donc 5 fois 80 plus 4,24 ne sont pas égaux. Je vous laisse éventuellement faire le petit calcul de, vous avez factoriel 4, c'est-à-dire 24 permutations, et bien 5 d'entre elles, vous aurez un certain type d'arbre comme ça qui domine, vous avez 4 types possibles, puis il y en a 4 pour lesquels il y a cet arbre-là qui domine. Bon, si vous avez ces poids-là, déjà vous avez une première chance de réussir. Si vous prenez des poids quelconques, voire des poids égaux sur tous les arbres, ça n'aura aucune chance de marcher. Et puis deuxièmement, il faut prendre les bons graphes, et alors là, plutôt que de vous les définir, je vous les montre. Ce sont les graphes de ce qu'on appelle en physique la représentation du champ intermédiaire, et donc ça c'est une proposition pour nos amis de la théorie des graphes et de la combinatoire, c'est de creuser les bijections qu'il y a autour de cette idée. Quand vous avez un graphe de Φ4, vous pouvez transformer ce graphe en introduisant de toutes les façons possibles, vous voyez, une ligne pointillée, pour éclater ce vertex en deux vertex d'ordre 3. Voyez. Alors vous pouvez le faire comme ça, ou bien comme ça, ou bien comme ça. Bon, là, je l'ai fait. Vous voyez que ça apparaît au niveau des cartes ici. En réalité, ça, ce sont des cartes différentes, et ça, c'est un graphe. Et puis ensuite, vous pouvez dire que toutes les boucles qui sont là, vous les transformez en un point noir, de sorte que ceci devient ceci. Et puis ces deux-là, si je transforme ça et ça en un point noir, ça donne dans les deux cas celui-ci. Donc vous trouvez que ce graphe-là, qui apparaît dans la théorie des champs Φ4 avec un poids 3, c'est comme la somme de ces deux graphes qui sont complètement différents, l'un avec un poids 1 et l'autre avec un poids 2. C'est ça que les physiciens appellent la représentation du champ intermédiaire. Rapidement, elle se complique, vous voyez. Quand vous avez des graphes de Feynman comme ça, ils donnent lieu aux graphes de champ intermédiaire comme ça. Bon, alors maintenant, vous...